En direct du Canada, c'est Tam Tam Canada, des studios de Radio-Canada International à Montréal. Autour de la table, vous allez les voir dans quelques instants apparaître tels des mirages, mais ça n'a rien à voir avec...
C'est des mirages réels.
C'est pas des fantômes, c'est des bons copains. Alors, on commence par Alice, cette semaine. Bonjour, Alice.
Bonjour, Stéphane.
Et Samir Ben Jaffer est avec nous. Bonjour, Samir.
Bonjour, Stéphane. Bonjour, Alice. Et bonjour à nos auditeurs.
À la planète, bien sûr, à la planète. Ne vous limitez pas.
Hein? Qui peut écouter, qui peut voir aussi. Oui, c'est ça. Tout à fait.
Exactement.
Et écoutez, nos invités qui s'en viennent.
Ouais, on a deux invités sur Skype aujourd'hui.
Oh, je passe.
Deux spécialistes d'une question de grande actualité, vous allez le voir. Nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos internautes et tous les autres ne savent pas quel est le sujet de l'émission aujourd'hui. Enfin, plusieurs. Si vous écoutez en direct, vous ne le savez pas. Si vous écoutez sur rcinet.ca, la version YouTube ou Facebook rediffusée, évidemment, le chat est sorti du sac. Ici même en studio, il y a un lion qui connaît les détails de l'émission.
Oui.
Parce que
il a fait ça?
Ben, la mouche tchétchique, je suis. Il en a parlé ce matin. J'ai touché un mot, malheureusement.
Alors, moi, je ne suis pas dans vos secrets. Hein.
Non.
Mais tu le seras bientôt, tu seras dans vos secrets.
Je vais deviner.
Ben oui, la seule qui va devoir deviner en studio, et tous les autres, évidemment, qui nous regardent en direct, vont devoir regarder cette vidéo 5 images qui contient le secret de l'émission aujourd'hui, le sujet. On regarde ça ensemble. 5 images. C'est pas évident cette semaine, Alice. Je vous le dis, là, c'est vraiment pas évident. Il faut utiliser vos connaissances générales, vos connaissances peut-être, je vais vous donner un indice, des couleurs.
Alice, elle peut trouver.
Elle peut être bonne dans ça.
Est-ce qu'on n'est pas en Algérie?
Est-ce que je peux répondre par oui ou par non à ça? Vous êtes en Algérie?
Ben oui, le peuple demande toujours plus de démocratie dans ce pays-là.
Bravo. Oui, bravo, et on l'applaudit.
Bravo, Alice. D'ailleurs, Alice a traité du sujet
non,
au début.
Mais non, on a le drapeau de l'Algérie qui a
alors,
pas mal.
Alors après un an de soulèvement populaire, l'Algérie demeure sous pression policière. C'est le thème aujourd'hui, d'accord? Et puis, quand je dis pression policière, il y a aussi des militaires dans tout ça.
Clairement.
À l'arrière de tout ça, il y a les militaires. Et puis, on va parler de ça avec des spécialistes. Mais avant tout, plaisir à l'émission de vous recevoir un vendredi. Nous, c'est comme la récréation. On a la grosse boule. Elle va tourner 3 fois l'émission. C'est la tradition. Et à chaque tour de la grosse boule, vous perdez des points et vous perdez de plus en plus de points au fur et à mesure que l'émission progresse.
Alors là, on espère qu'on n'en perdra pas. Ouais.
Bon, on va apprendre des choses, c'est ce qui est bien avec l'homme.
Machiavelli, c'était mon petit frère. Alors, on va regarder la première question aujourd'hui au grand écran. Je vous avertis, il y a un compteur, 59 secondes pour répondre. Donc, si vous ne savez pas de quoi vous parlez, on va vite le sentir. Voici la question. Top chrono. Laquelle de ces affirmations est la plus juste? Le chrono n'est pas parti, attention là. Mais il devrait partir. On ne va pas vous offrir un cadeau.
Il y a plus de Marocains que d'Algériens ou de Tunisiens.
Ouais.
Il y a plus de Marocains que d'Algériens et de Tunisiens. Il y a plus d'Algériens que de Tunisiens ou de Marocains. Ah là là, il y a de la logique.
Il y a des « et des « ou ».
C'est ça.
Mon Dieu, c'est bon.
C'est ça.
Oui.
Il y a plus d'Algériens.
Est-ce que c'est des « ou »
Attendez, ça c'est au Canada ou dans le monde?
En Algérie. Et puis en Tunisie. Et puis au Maroc. On parle des populations, de l'importance.
C'est très, très bien.
Là, c'est...
Et les « et » inclusifs.
Exactement. Il y a plus de Marocains que d'Algériens ou de Tunisiens.
Et il n'y a pas beaucoup de secondes pour répondre. Hein?
Plus de Marocains que d'Algériens et de Tunisiens, non.
Il y a plus d'Algériens
que de Marocains et de Tunisiens.
Oui, ça,
c'est le C.
C'est le C.
C'est le C.
Vous êtes sûr de ça?
Oui, c'est le C. C'est le C.
Il y a plus d'Algériens que de Tunisiens ou de Marocains.
C'est le C. C'est le C.
Moi aussi, je
n'arrêtez pas la boule de tourner.
Ok.
Je vais avec le C, moi aussi.
Vous aussi?
Oui, parce qu'il y a le E et le OU.
Vous êtes sûr?
On a fait un peu de logique.
J'en donne encore 2 secondes.
Moi, je dis C.
Moi aussi.
Ok. Alors, félicitations. Vous avez tous les deux la bonne réponse,
merci.
Malheureusement. Alors, en Algérie, il y a 41 millions d'habitants. Et au Maroc, il y en a 35 millions. En Tunisie, il y en a 11 millions. Alors, la bonne réponse, c'est effectivement, il y a plus d'Algériens que de Tunisiens et de Marocains.
Ou de Marocains.
Ou de Marocains.
Bah, si c'est faux.
Oui.
Si c'est
faux,
c'est
ou.
Celui
qui a rédigé la question s'est trompé.
Voilà, c'est ou.
C'est ou. Ou.
Parce que si on a et, ça devient inclusif. Ça veut dire qu'on a plus d'Algériens que de Marocains et de Tunisiens réunis.
Ça fait une addition quand tu fais le et.
Ça fait une addition et c'est faux.
Vous savez, vous devez être excellente en cours de français, en grammaire.
Après des cours de logique aussi, de maths, de logique mathématique aussi.
Je dois vous dire, allez, j'ai dû y penser très fort aux questions cette semaine parce qu'il est d'origine algérienne.
Bah oui.
Et en plus de ça, il est journaliste. Hein. C'est 2 défauts. Mais
on en échappe parfois des choses. On en échappe. On peut en échapper parfois.
Alors, j'ai dû poser des questions où vous alliez quand même des chances de pas répondre correctement.
OK.
Ça va bien, vous gardez vos 20 points.
Bon. Parfait.
On va aller quand même plus sérieusement parler de politique, pas seulement algérienne, mais aussi de la diaspora canadienne, des diasporas algériennes dans le monde qui participent, qui ont fait des efforts. On a même ici au Canada une réalisatrice à Montréal d'origine algérienne qui a fait un documentaire très engagé là-dessus. On va lui parler un peu plus tard à l'émission.
Ah, OK, parfait. D'accord.
Mais pour le moment, on se tourne vers M. Milo.
Est-ce que
Milo...
c'est pas la même à qui j'ai parlé récemment?
Non.
Non, c'est pas la même.
Okay. Je ne pense pas,
Ouais. Vous avez parlé avec qui récemment?
J'ai parlé avec une réalisatrice qui parlait de l'immolation par le feu.
Non, ça c'était au début du mouvement. Vraiment, c'était la, au moment où ça a commencé. C'était Mariam Bouakaz. Oui, oui. Ça fait pratiquement une année.
Mariam Achour-Bouakaz. Ouais.
Parce que tout a commencé il y a un an, le 22 février.
Exactement. Tout à fait. C'était bien avant. C'était, je crois, un mois avant.
Non, c'était vraiment au moment où ça a commencé.
Non, ça n'avait même pas encore commencé. Et je me souviens que je lui ai posé la question.
C'est ça, que ça commençait à bouger. Okay. Ça commençait à bouger.
Était toujours au pouvoir. Et elle m'a dit oui, il est là, il ne veut pas partir. Et c'est pour cette raison que les jeunes sont mécontents. Et juste après ça, c'était parti, la révolution avait commencé.
D'ailleurs, l'une de ces questions, ça m'avait surpris à l'époque. Mm-hmm. On dirait qu'elle avait senti que ça allait, que ça bougeait. Alice, elle m'avait surpris à ce moment-là. Elle était vraiment en phase avec le mouvement populaire qui n'était pas encore déclenché, mais...
On peut le dire ainsi.
C'est parce qu'elle a une expérience journalistique.
Exactement, elle a un feeling...
Ça l'aide un peu, là, dans ce cas-là. Bon. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir, accueillir à l'émission Tamtam Canada notre invité, M. Chenoufi? On me dit qu'il faut que je brode encore pendant quelques secondes. C'est dommage, j'ai pas apporté ce que j'aime faire le soir à la maison, ce tricotage.
Ah, vous faites du tricot, vous?
Non, mais...
J'aimerais bien voir.
Ce n'est plus un tabou. Moi, j'ai croisé des hommes dans les bus qui faisaient avec des aiguilles comme ça pour passer le temps. J'en ai croisé ici à Montréal.
Puis, vous n'avez pas eu peur?
J'ai pas eu peur, non. Je me suis dit que...
Non, mais c'est plutôt surprenant de voir des hommes qui font du tricot, surtout dans le métro.
Oui. J'en ai vu un, je l'ai vu une ou deux fois, puis après il a disparu, je ne sais pas pour quelle raison. Mm-hmm. Par contre, on a la mairesse d'un des arrondissements de Montréal, qui à un moment, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est une mairesse très engagée, c'est une mairesse d'arrondissement féministe. Qu'est-ce qu'elle faisait? À chaque fois qu'un homme parle, elle tricotait avec la couleur rouge, et chaque fois qu'une femme parle, pendant la... elle tricotait.
Oui, j'avais cru entendre cela à la tricotait... radio, quelque chose comme ça. Oui,
et pour voir que les hommes prenaient plus d'espace dans l'espace public que les femmes. Mais ça, c'est la marque de fabrique de cette mairesse d'arrondissement.
Elle voulait jouer un peu sur la notion d'égalité.
Elle est dans ça.
Je peux vous ramener maintenant vers le centre de l'émission.
Oui.
Je veux pas qu'on...
On revient en Algérie.
Simplement que vous nous touchiez un mot avant d'aller vers notre invité sur la diaspora au Québec, au Canada, algérienne. Vous avez côtoyé, vous êtes descendu dans la rue pour faire des reportages.
Les Algériens de Montréal, ce que... Je parle de ceux de Montréal, mais un peu partout au Canada, que ce soit à Ottawa ou bien à Québec ou bien à Montréal. En tout cas, depuis le début du mouvement populaire, le 22 février 2019, il y a eu à Montréal, chaque semaine, chaque fin de semaine, une manifestation.
Ah oui?
Quand je vous dis, on est à la 54e
manifestation.
Là, on passe à la 54e demain.
54e semaine?
Aujourd'hui en Algérie, c'est la 54e semaine. Mm-hmm. Et à Montréal aussi demain. Donc à Montréal, il y a pratiquement deux manifs par semaine. Wow. Une le samedi en face du consulat et une autre à la place du Canada à Montréal. Et c'est vraiment, c'est les mêmes slogans. Les gens, c'est du soutien pour la révolution, ce qu'on appelle la révolution du sourire. Mm-hmm. Mais en même temps, les gens discutent aussi. Ils ne font pas que manifester. Il y a aussi des forums, des discussions sur les possibilités de sortie de crise en Algérie, comment la diaspora peut aider ce mouvement. Mm-hmm. Et par exemple, pendant toute cette période, les grands événements de l'Algérie, par exemple, on a eu une grande manifestation à l'occasion de la fête du déclenchement de la révolution algérienne. C'était le 1er novembre, et ça a coïncidé avec le 2 novembre.
Oui.
Et on a aussi une grande manifestation qui a traversé tout Montréal le samedi dernier. C'était le dimanche dernier, c'était à l'occasion du premier anniversaire du déclenchement de cette révolution.
Du départ de Bouteflika.
Bouteflika, il est parti le 2 avril, mais le déclenchement de la révolution, c'était le 22 février.
Alors, qu'est-ce qui fait problème en ce moment? Pourquoi ça coince? Pourquoi les gens continuent à manifester? Ben,
écoute, parce que toutes les revendications n'ont pas été objectifs. Et je pense que notre invité va nous en parler. Ça, nos deux invités vont nous en parler. Et ça, c'est l'une de mes questions à moi aussi. Que je vais poser.
C'est bien. Vous avez beaucoup de questions. Moi, j'attends les réponses, comme vous. Mais ce que je trouve amusant, c'est qu'on va... Quand vous dites notre invité, vous ne savez pas lequel des deux. Hein?
Ah oui.
Moi non plus, d'ailleurs. Mais ça va, la solution
Est-ce
va arriver.
Est-ce que les deux invités parlent du même sujet?
Oui. Okay, j'espère. Parfait.
Oui, mais sinon, de perspectives. mais l'apport, il est différent. L'apport, il est différent, j'imagine.
On va d'abord avoir le point de vue engagé, d'accord? Je vous avais promis une entrevue avec un professeur universitaire. Bon, on va commencer par le point de vue engagé, celui de Sarah Nasser. Réalisatrice ici à Montréal, montréalaise, d'origine algérienne. Bonjour, Sarah.
Bonjour.
Alors, pendant qu'on va se parler, nous avons extrait d'une publicité qu'il y avait sur YouTube des images de votre documentaire pour qu'on voit les gens dans la rue manifester, les images que vous avez captées. Je voulais d'abord vous demander, quand vous avez eu l'idée de tourner ce reportage ou ce documentaire, est-ce que vous étiez là-bas déjà ou vous étiez ici et vous avez réagi en disant « il faut que j'aille sur le terrain »
Ben en fait, c'est assez drôle parce que ça s'est décidé lors d'une émission à Radio-Canada où j'avais été invitée pour débattre de la situation. J'avais été d'ailleurs très surprise de recevoir un appel parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas forcément dans les rues de Montréal en train de manifester. Mais bon, j'étais reconnue pour mes implications culturelles au sein de la communauté algérienne. Et c'est lors de ce débat... Et c'est surtout suite à ce débat au niveau de Radio-Canada et à la réaction de plusieurs collègues qui m'ont dit qu'ils venaient de découvrir un pays qu'ils ne connaissaient pas, que j'ai pris conscience du momentum qui était d'aller immortaliser ce mouvement et que c'était aussi l'occasion pour le monde de découvrir cette Algérie qu'on ne montre pas forcément dans les médias et qu'on ne connaît pas forcément. Et donc j'étais à Montréal et puis j'ai pris un billet d'avion et je suis descendue à Alger vivre le mouvement et l'immortaliser à travers ce documentaire.
Le titre, qu'ils partent tous.
Hein? Ça rappelle un peu le fameux dégagisme dont on parle tant.
Mais c'est
France,
le dégagisme.
Tout le monde doit partir. Est-ce à dire que toute l'équipe est pourrie? Parce que là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas de bon grain?
Bah écoutez, moi, le titre, tout le monde sait d'où il vient. Le titre, c'est au fait, c'est ce mot, ce cri du cœur du jeune Sofiane qui avait fait un vox pop et au fait, qui était apparu au milieu d'une émission, d'une entrevue. Au fait, faut remettre les choses dans le contexte. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque d'abord Bouteflika a annoncé qu'il renonçait à la candidature au cinquième mandat, il y avait une télévision étrangère, je pense que c'est une télévision du Moyen-Orient, qui avait envoyé une correspondante dans les rues d'Alger pour montrer un peu la réaction des Algériens. Et cette correspondante disait que les Algériens étaient satisfaits et qu'ils se félicitaient donc des résultats et de la démission du président. Et donc Sofiane, c'est un jeune Algérois qui passait par là. Et en entendant ça, c'est venu le chercher profondément. Et il est rentré au beau milieu de cette entrevue. Il a coupé l'entrevue pour dire non, on n'est pas satisfait. Et donc, bon, au début, elle a voulu le mettre de côté, mais ils ont vu qu'il ne pouvait pas. Donc, elle a décidé de l'interviewer, de lui donner la parole. Et c'est extraordinaire parce que ce que Sofiane a fait en 30 secondes, c'est qu'il a résumé toute la situation en Algérie et bien plus. C'est-à-dire qu'il a dit non, on n'est pas satisfait. Il n'en fait que remplacer un pion par un pion. Donc, il avait bien compris que le système avait... C'est lui qui faisait l'échiquier, qui jouait avec l'échiquier, que Bouteflika n'était qu'un pion, finalement. Et finalement, elle lui a dit... Et il a sorti cette phrase extraordinaire, « Yitna haouga », donc que j'ai traduit par « qu'ils partent tous », mais ça aurait pu être plus fort en disant « qu'ils dégagent tous », parce que c'est vraiment ça que les gens veulent. Et c'est devenu... Sofiane est devenue un peu l'icône de la révolution. Et cette phrase est devenue un peu le mantra de cette révolution du sourire. Et on veut qu'ils partent tous. C'est ça que les Algériens veulent, que le système tel qu'il est parte et laisse la place à quelque chose de nouveau, à une démocratie, au fait.
Sarah, vous n'êtes pas appuyée par une organisation médiatique. Vous êtes une productrice indépendante, j'imagine. Quels sont les risques que vous prenez si vous deviez, par exemple, vous retourner en Algérie, faire un autre documentaire sur la situation de ces prisonniers politiques, puisque maintenant, il n'y a pas d'autres... On peut pas décrire la situation différemment. Le régime a dit on a libéré des gens, ne vous en faites pas, mais derrière la machine, les cachots continuent à rouler. Si vous deviez vous retourner là-bas, est-ce que vous prendriez des risques? Est-ce que c'est une société vraiment où il y a des dangers pour les gens qui veulent faire des pressions de l'extérieur comme vous?
Mais écoutez, c'est sûr que moi, avant de sortir mon film, je me suis posé plein de questions. Et pas pour moi, parce que moi, j'habite à Montréal. Au pire, je ne rentre pas en Algérie pendant une période et puis c'est tout ce que je risque. Par contre, j'ai pensé vraiment aux personnages, aux gens qui ont pris la parole dans mon film, qui ont participé à ce documentaire, qui se sont exprimés. Je les ai tous contactés plusieurs fois avant de sortir le film pour leur dire est-ce qu'ils étaient toujours d'abord en accord avec ce qu'ils avaient dit en face à la caméra. Et j'ai appelé aussi mon ami qui a produit le documentaire et je lui ai dit c'est toi qui prends le plus de risques, c'est ton nom qui a la production. On a tourné sans autorisation de tournage, on a fait ce documentaire avec une caméra à la main. Et il m'a dit, écoute Sarah, nous on assume tout, on est dans les rues chaque vendredi pour le crier haut et fort, alors vas-y, sors ce documentaire. Et donc à partir du moment où les gens m'ont donné l'autorisation, de mon côté, moi j'avais pas peur. C'est vrai qu'à partir du moment où le documentaire est sorti, que j'ai pris même la parole sur d'autres chaînes, sur d'autres médias, on m'a suggéré fortement de ne pas descendre en Algérie à ce moment-là. Mais depuis, honnêtement, moi, si j'ai l'occasion, je descendrai en Algérie. Mon rêve, c'est de projeter ce film en Algérie, de pouvoir le projeter au public, parce que c'est vraiment, c'est à eux qu'il appartient, ce documentaire. Je suis actuellement en train de faire une demande officielle au ministère pour avoir l'autorisation de le tourner, parce que j'essaie de faire les choses un peu correctement. À partir du moment où est-ce qu'ils ont décrété que le 22 février, donc qui est la date de déclenchement de cette révolution du sourire, ils ont décrété que c'était une journée nationale, donc ils ont joué un peu sur cette date. C'est ça, le gouvernement a décrété. Alors je pars du principe que le gouvernement reconnaît cette révolution. Alors je leur demande l'autorisation de diffuser ce film qui parle de cette révolution qu'il a reconnue. Donc moi aussi, c'est comme ça que je vois. Et pour finir, j'ai dédié mon film aux détenus d'opinion, parce que quand j'ai tourné en Algérie, il n'y avait pas autant de répression. On était encore aux premières semaines de cette révolution du sourire. Et j'ai aussi dédié ce film, et je tiens à le dire, à un jeune, Ramzi Etou, un jeune de Blida, donc de la périphérie d'Alger, qui est venu manifester avec ses amis un vendredi et qui n'est jamais rentré chez lui. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est arrivé. Il y a encore une enquête qui est apparemment en cours, mais selon beaucoup de sources concordantes, il aurait été bastonné par la police.
La police, exactement.
C'est ça. Et donc, ce jeune, pour moi, c'est le jeune martyr de la révolution. C'est très symbolique, c'est un jeune. Et on dit que cette révolution des sourires est portée aussi par beaucoup de jeunes. Donc, c'est à lui que j'ai dédié ce documentaire pour que nul n'oublie ce jeune qui est mort aux premières semaines de la révolution.
Sarah Nassar, vous avez parlé de projection tout à l'heure en Algérie, mais nous, je voudrais bien que vous nous parliez de la projection de votre film ici au Canada. Comment il a été accueilli par le public? Et j'imagine que le public, il y avait certainement des membres de la diaspora algérienne, il y a aussi des Canadiens, si on peut dire, que ce soit des Québécois ou bien d'autres communautés.
Ouais, mais en fait, moi, j'ai été très, très, très surprise de l'accueil parce que au départ, je m'attendais à faire un film et louer une salle à Montréal et le projeter juste comme ça aux proches, parce que je ne lui avais pas donné toute cette valeur que finalement il portait en lui, parce qu'on est toujours autocritique par rapport à son travail et c'est mon premier film. Donc j'osais pas vraiment le montrer comme ça au public. Ouais. Et finalement, j'ai un de mes collègues qui a contacté la Cinémathèque et qui leur a dit « on a une jeune... collègue réalisatrice qui vient de faire un film sur un sujet d'actualité. » Et ils l'ont vu et ils ont carrément décidé de le programmer donc à la Cinémathèque. C'était prévu. Moi, je m'attendais à ce que ce soit une seule journée. Donc, j'avais choisi symboliquement la journée du 11 décembre parce que c'était la veille des élections en Algérie. Oui. Mais aussi parce que le 11 décembre est une journée en Algérie historique. C'est une journée, le 11 décembre. Donc, Samir peut-être pourra me... Je pense que c'est en 61, si je ne me trompe pas. En décembre 61, les Algériens sont sortis dans toutes les rues d'Algérie pour demander pour demander la fin de la colonisation française et donc la fin de la guerre. Mmh. Et j'ai choisi cette date historiquement, le 11 décembre, pour ma première projection à Montréal. La salle s'est remplie en quelques heures et du coup, on a eu énormément de projections. Ça a fait sold out pendant 8 séances à la Cinémathèque. Et il y a eu énormément de, oui, d'Algériens. Et puis, ça ouvre le débat, bien sûr. Les Algériens sont connus pour aimer les débats. Puis, et il y a eu aussi beaucoup de gens qui ne sont pas forcément... Non seulement, ils ne sont pas forcément Algériens, mais ils n'ont pas forcément de lien avec l'Algérie. Et ils sont venus par curiosité pour découvrir un peu cette révolution de l'intérieur. Et j'ai été très, très, très surprise et agréablement surprise par l'accueil parce que j'ai vu des gens sortir de la salle en pleurant et pas forcément des Algériens. Et je pense que le message de ces jeunes que je porte dans le documentaire est passé. C'est un message du cœur, c'est de l'authenticité, c'est quelque chose qui a été filmé sans aucun casting. Ça a été vraiment pris à chaud au cœur de la révolution. Et le message, je pense, a su toucher et rejoindre les gens ici à Montréal.
Merci Sarah, juste une précision, le 11 décembre 1960, juste pour...
Ah 60, pardon, je m'excuse. Ouais, je m'excuse.
Elle n'était pas née à ce moment-là. Ah bah,
exactement.
Non.
C'est sûr et certain. C'est un compliment à pas ça. Écoutez, merci beaucoup, Sarah Nasser, d'être venue à cette émission, d'avoir mis la table pour les autres qui vont vous suivre. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà. Et elle était à 500 mètres, 800 mètres de nos studios, de notre côté de la
ville. Vive la technologie
ouais,
qui permet
de... extraordinaire. On va aller maintenant très, très loin. On va aller à Toronto, qui est à environ 500 km de Montréal.
C'est pas en mètres.
Oui, c'est ça. Bon, mais c'est facile, c'est 100 fois plus, 1000 fois plus.
1000 fois plus.
C'est ça. Donc, ça fait 5000 mètres. C'est ça? Oui, à peu près.
500 000. Oui. 500 000.
Ça fait écoutez,
500 000 mètres.
Attendez-vous.
Ah oui, c'est vrai. Oh, une chance que j'en ai pas bon en maths. Bon. On a M. Minoufli, Minoud, qui est avec nous finalement. Bonjour. Comment ça va?
Bonjour à vous.
Bonjour à vous. Je veux quand même préciser, vous êtes bien à Toronto, on ne se trompe pas là-dessus. Hein?
Exactement, exactement. Et il fait aussi froid, donc ça va.
C'est vrai?
Ouais.
Écoutez, là, on ne parle pas de chaleur en Algérie, on va parler de climat politique tout de même. Moi, je regarde ça avec un an de détachement. On a vu les soulèvements populaires, nous en parlions beaucoup à Radio-Canada. D'ailleurs, j'ai fait un tour dans les archives de Radio-Canada. C'est à ce moment-là qu'on voit l'Algérie à la télévision. On présente ça aux Canadiens. Après ça, pas grand-chose. Bon, on va retenir coup d'affaires. Président Bouteflika se retire. Il y a un général qui prend sa place. Il y a des élections présidentielles annoncées en décembre. Il y a quelqu'un qui est élu, ça ne fait pas l'affaire de la population. Il y a un général qui est mort entre-temps.
C'est le même général.
Le même général. Et depuis ce temps-là, ben, on découvre, et là on commence à voir des reportages, qu'il y a de la répression policière, militaire, que les choses sont... Est-ce qu'elles sont maintenant plus graves qu'elles ne l'étaient sous Bouteflika?
On ne peut pas dire ça. On ne peut absolument pas dire ça à partir du moment où, malgré les arrestations politiques qui sont tout à fait problématiques, et puis les détenus politiques, bien entendu, doivent être libérés, c'est une revendication tout à fait légitime, eh bien, le type de manifestation que nous voyons aujourd'hui, chaque semaine, dans les rues d'Alger, était assez impensable sous la présidence de Bouteflika. Hein. Il y avait une interdiction par la loi de manifester dans la rue, alors que aujourd'hui nous en voyons deux par semaine, une le vendredi et une le mardi. Alors de ce point de vue-là, il y a une différence assez fondamentale. Maintenant reste la question des détenus politiques et reste le reste des questions liées au mouvement populaire qui doivent être adressées effectivement.
Est-ce qu'on peut considérer l'Algérie aujourd'hui comme une nation démocratique, étant donné que les gens continuent à se plaindre? Si les gens se plaignent, c'est qu'il y a un problème de fond, il y a un problème quelque part qui perdure. Qu'est-ce qui fait problème selon vous aujourd'hui et qu'est-ce qu'on devrait faire pour que la démocratie soit véritablement en marche dans ce pays?
Vous savez, pour moi, la démocratie n'est pas un stade final, n'est pas un stade défini. C'est toujours un processus. Même dans les démocraties qui sont établies, elles peuvent connaître un surcroît de démocratie ou de régression dans la démocratisation, comme on le voit aujourd'hui un peu partout en Occident, sous le coup des mouvements populistes et avec un recul des droits démocratiques. En Algérie, il y a un processus qui est très très long, qui s'est enclenché, ça fait une bonne trentaine d'années, qui a connu des avancées, qui a connu des reculs, mais on peut dire que depuis l'année dernière, c'est une avancée dans le bon sens de la démocratisation. Le problème, c'est que nous sommes encore loin de toutes les étapes qui sont nécessaires pour arriver à une véritable démocratie. Il y a bien entendu les blocages qui viennent du pouvoir politique, mais il y a également les limites du mouvement populaire lui-même, hein, qui, du point de vue de la mobilisation, est irréprochable, puisque la mobilisation est encore très vivace, mais qui reste très limitée en matière de structuration, en matière d'organisation, et en matière de propositions concrètes vers un changement ordonné. Vous savez, le fameux slogan dont vous avez discuté il y a un instant, « Il faut qu'ils partent tous », est un slogan politique qui est très accrocheur, très mobilisateur, mais en matière de programme de changement, il n'a pas beaucoup de sens. Parce que qu'est-ce que ça signifie qu'il faut que tout le monde parte, puisqu'on sait que le pouvoir en Algérie repose sur un certain nombre d'institutions. Est-ce qu'il faut que ces institutions partent? Si ces institutions partent, l'instabilité qui est créée, notamment avec un affaiblissement de l'institution militaire, est-ce que les gens qui revendiquent ce genre de changement ont au moins un plan dans leur tête pour assurer la relève. Et c'est sur ce point-là précisément qu'il y a un blocage, puisqu'il n'existe pas dans le mouvement populaire pour le moment de propositions concrètes.
Monsieur Chenoufi, est-ce que vous pensez qu'il faut que ce qu'on appelle le mouvement populaire, le Hirak, doit se structurer? Est-ce que c'est primordial pour vous par rapport à votre analyse politique? Est-ce que c'est nécessaire ou c'est obligatoire qu'il y ait une structuration pour que ça puisse avancer?
C'est impératif. Vous pouvez envisager toutes les expériences historiques de démocratisation, que ce soit en Espagne, en Grèce, en Turquie, en Indonésie, en Inde ou ailleurs, ou en Amérique latine également, et vous allez voir que toujours, la démocratisation s'est manifestée ou s'est concrétisée lorsque les porteurs de cette démocratisation étaient structurés, pas nécessairement dans une seule et unique structure, puisque le mouvement populaire est très pluriel. Donc il faut qu'il représente toutes les sensibilités qui existent. Et puis, toutes les expériences de démocratisation se sont faites aussi grâce à des partenaires qui existaient dans les systèmes politique précédent, hein. Donc il n'y a pas eu de très rarement en fait un départ, un effondrement, si vous voulez, du système qu'on va remplacer par quelque chose d'autre. Il y a toujours eu, si vous voulez, un rapport transactionnel entre ceux qui voulaient un changement et ceux qui étaient dans le système et qui ont accompagné également le changement. C'est ce qui doit se produire en Algérie. Un dernier mot là-dessus. Si le mouvement populaire ne se structure pas de façon innovante et de façon à exprimer ce nouvel élan, notamment celui de la jeunesse, eh bien, à l'intérieur du mouvement, il y a des groupes organisés qui avancent se masquer avec leur propre agenda, qui cherchent effectivement à récupérer ce mouvement et s'emparer du pouvoir sans élection, à la manière de ce qui s'est passé dans certains pays, avec des conséquences totalement désastreuses.
Vous pensez à l'Égypte, c'est ça?
Non, je ne pense pas à l'Égypte, parce qu'en Égypte, au moins, il y a eu des élections. Mais c'est vrai que les frères musulmans qui ont raflé la mise, si vous voulez, en Égypte, n'étaient pas derrière le mouvement populaire. Ils n'étaient pas derrière le mouvement populaire. Ils ont rejoint le mouvement quand c'était devenu, si vous voulez, sans risque. Et ensuite, ils ont voulu tout ramasser. Et en ramassant tout, ils ont recréé une polarisation qui a fini par ramener les militaires par la fenêtre, alors qu'on avait essayé de les faire sortir par la porte.
Alice.
Mais c'est vrai que dans toute révolution, il y a des intérêts divergents qui s'affrontent. Les jeunes aussi ont leurs intérêts, ils ont leur doléance à soumettre. Enfin, au début de cette émission, je parlais d'un entretien que j'ai eu avec une jeune réalisatrice algérienne, Myriam Achou Bouakaz. Oui. Voilà, elle me décrivait la situation d'une jeunesse totalement déboussolée, désorientée, sans emploi, en perte de repères. Des jeunes qui étaient parfois obligés de s'immoler par le feu, comme ultime ultime solution pour sortir hein, de la vicissitude que la vie leur impose dans ce pays-là, ben, ils essayaient de suivre le modèle de ce jeune marchand de fruits tunisien. Il s'appelait Mohamed Bouazizi, qui s'était immolé par le feu parce qu'il était tout simplement dépassé par la situation dans son pays. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on peut redonner espoir à ces jeunes Algériens-là?
Disons d'abord que les griefs qui sont exprimés par la jeunesse ou par d'autres pans de la société algérienne sont la plupart du temps tout à fait légitimes. Donc de ce point de vue-là, c'est absolument indiscutable. Maintenant, pour répondre à ces doléances, il est absolument nécessaire d'avoir un programme, une vision, une structure, arriver au pouvoir par des moyens légitimes et mettre en œuvre ces plans, ces politiques ou ces stratégies. Donc le problème n'est pas du tout que les doléances ou les griefs ne soient pas légitimes. Ils le sont absolument. Ce qui manque à la jeunesse en Algérie, c'est de s'organiser politiquement. Et la politique, ce n'est pas uniquement des cris du cœur. Les cris du cœur sont importants, sont absolument nécessaires parce que c'est avec ça qu'on se mobilise et c'est avec ça qu'on reste vigilant. Mais il faut qu'il y ait l'apprentissage de quelque chose de plus. Et le quelque chose de plus qu'il faut apprendre, c'est à se structurer, à s'organiser et à se doter d'un programme, à se présenter comme une alternative. Vous savez, la raison pour laquelle le mouvement populaire a cessé d'intéresser le monde et les médias dans le monde, c'est tout simplement parce que le pouvoir en Algérie est capable donc de véhiculer ce message à l'égard des partenaires étrangers en disant « au moins, moi, j'ai un plan. Je sais où est-ce que je vais, voilà les étapes de ce que je veux réaliser pour retourner à la stabilité. » Alors qu'en face de moi, j'ai juste une masse de gens qui sont dans la rue, qui sont incapables de présenter un plan bien articulé, qui soit suffisamment réaliste pour se présenter en alternative. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le départ du président Bouteflika, la réalité, c'est qu'au-delà de la mobilisation de la rue, c'est le pouvoir qui gagne.
Une dernière question.
Oui, M. Chenoufé, chaque mouvement populaire de cette envergure, généralement, ça n'arrive pas chaque année. Donc, mais là, ça dure depuis une année. Qu'est-ce que vous prévoyez sur la durée? Est-ce que ça va encore continuer comme ça? Ou est-ce que ça va s'essouffler? Ou est-ce que ça va avoir un autre regain et avancer vers l'avant?
En fait, c'est toujours très difficile de prévoir l'avenir, mais une chose est certaine. L'Algérie qu'on a connue sous le président Bouteflika, notamment les 10 dernières années, ça c'est un passé révolu auquel l'Algérie ne reviendra pas. Là-dessus, c'est une certitude. Maintenant, pour le mouvement populaire, il y a différentes directions possibles. L'essoufflement est un risque et ce serait vraiment dommage que ce mouvement s'essouffle. Ce n'est pas du tout souhaitable. Ce qui est par contre souhaitable et qui est possible aussi, c'est que on s'organise de telle sorte à pouvoir peser dans les élections, parce qu'il y aura des élections. Oui. Donc il faut s'organiser pour pouvoir à la fois participer aux élections et aussi les contrôler, de telle sorte que si elles ne sont pas, si elles ne se déroulent pas dans des conditions démocratiques, il est possible de les remettre en cause par la suite. Donc pour moi, pour l'avenir, une avenue positive possible serait d'avancer sur deux lignes. La ligne de la mobilisation continue et la ligne de la structuration de l'organisation et de la proposition de programme comme alternative. Donc voilà.
Professeur Chenoufi, vraiment, vous aviez une entrevue bien, bien organisée, vous, bien, bien structurée. On apprécie, on a compris le message et le message est clair. Il faut préparer la structure, il faut faire des propositions très claires qui s'accordent avec les vrais besoins de la nation plutôt que de simplement vivre avec les cris du cœur. Parce que ça aide, mais ça ne mène pas.
Ça mobilise, ouais. Mais il faut faire des actions politiques.
Il faut un lendemain, il faut un projet. Alors, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui à l'émission et puis puis on va féliciter Bell Canada de nous avoir secouru grâce au téléphone pour pouvoir vous parler, sinon on n'aura qu'une image. Ouais.
Merci.
Merci beaucoup à vous, à la prochaine.
À la prochaine, c'est certain. Alors, c'était Miloud Chinoufi du département d'études de la défense, Collège des forces canadiennes à Toronto. Écoutez, place au plaisir maintenant, je pense qu'on a bien compris notre leçon.
Oui.
Et puis là, on va voir, c'est un peu comme à l'école, je vous pose des questions très simples sur la géographie, sur l'histoire, sur la démographie, comme je l'ai fait plus tôt. Alors, considérez-moi, voyez-moi en moi un professeur sympathique.
On est venu apprendre ou consolider ce qu'on sait.
Bon.
Donc,
alors,
deuxième tour de la grosse boule. Il y a combien de boules à perdre pour le deuxième tour?
30.
On ne vous cache rien, il y a 30 boules à perdre. Mais vous avez conservé vos 20 premières boules.
Oh
donc,
God.
Le pire score aujourd'hui que vous pourriez avoir, c'est 80. Ben, non, ce n'est pas le pire, c'est le meilleur. Bon, voilà. La deuxième question de la grosse boule aujourd'hui, c'est très simple. C'est une question géographique. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, je dessinais les chaînes montagneuses au nord de l'Afrique parce que j'étais à l'école française, parmi les lycéens. Et donc, moi, je dessinais le petit atlas, le grand atlas. Ça vous dit des choses,
oui,
ça?
Oui, bien sûr.
D'accord. J'aimais beaucoup dessiner dans mes cours de géographie. Et je pense qu'il y a beaucoup de déserts dans votre pays.
Oui, il y a des déserts.
Mais Samir est plutôt bien parti.
Non, là, là, là.
Son pays natal.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par désert? Est-ce que c'est le sable? Est-ce que c'est les montagnes rocheuses? Montagne aride aussi.
C'est le Sahara, monsieur. C'est le Sahara.
Le Sahara,
d'accord?
Ah, le Sahara, pas le désert.
Le Sahara occupe quel pourcentage de la superficie de l'Algérie?
Ben, c'est sûr que c'est passé. Si c'est 90%.
On est du 70. Oh, on est de l'ordre du 70. On est de l'ordre de 70. Pas 80% quand même.
Oh,
j'irai
avec...
Parce que quand même, on a toute une bande, on a... Ben, les... Mais qu'est-ce que tu considères?
Ben, j'irai avec 80%.
80%? B, 80%. Vous y allez avec le moyen,
c'est,
là.
C'est vraiment au pif, parce que je trouve que 90%,
c'est
trop.
Beaucoup, là,
trop. C'est beaucoup trop.
Oui. Pourtant, c'est au...
Oui, c'est 2 millions, plus de 2 millions de kilomètres carrés.
Mais
vous avez la donnée, c'est 2 millions de kilomètres carrés, cette superficie du Sahara.
Sur,
comment vous le savez, ça?
Ben, écoute, j'ai fait ma géographie à l'école.
Ah
donc...
bon?
Ben, il est d'origine algérienne.
C'est
mais,
un cinquième de la superficie canadienne, c'est le désert, présentement, en Algérie.
Alors,
j'ai pas eu de réponse de la part de Samir. J'ai eu une bonne réponse. On va aller voir si c'est B, la bonne réponse.
Mais c'est un pur hasard.
Alors, bon, et c'est
franchement, je le connaissais.
Voilà. Et Samir, malheureusement, vous avez perdu vos 30
boules. J'étais en train de rêver. Il était en train de spéculer.
Non, j'ai vraiment pas eu le temps.
Vous avez pris tout le temps dans vos spéculations.
J'étais comme le magicien. Je vous montrais cette main.
Je voyais le 59 passer. Bon, ouais, c'est pas grave.
Ça va? Seulement 30 points perdus.
Il vaut mieux s'abstenir que de donner de mauvaises réponses.
Alors, on y va pour le troisième jeu.
Bon,
alors, Alice a conservé tous ses points.
Toutes mes boules.
Ouais, et puis vous n'avez perdu que 30.
Parfait,
les derniers...
je suis à 70, parfait. Donc,
bon, dernier jeu, c'est 50 boules à perdre.
50 boules à perdre. Vous allez voir, c'est une autre question très facile pour Alice.
En 2019...
En 2019, l'Algérie comptait combien de fois moins de barrages que le Canada?
Barrage
donc, hydroélectrique ou barrage.
Voilà.
Bah, ouais. Est-ce que c'était 200 fois moins?
Il y a combien de barrages au Canada? Dis-moi.
Ça, écoutez, ça fait partie des connaissances générales, vous devriez le savoir. Est-ce que c'était B, 400 fois?
Ou 800
est-ce que
fois moins.
800 fois moins?
C'est 800 fois, oui. Allons-y 800 pour 800 fois. Alors, barrage, même les petits, barrages, là. C'est-à-dire, attends.
Tout barrage confondu.
800.
Vous dites 800 fois moins.
J'irai avec un maximum.
Bon.
Et les barrages au Canada, c'est pas à chaque rue.
Si je vous dis qu'il y a 10 000 barrages au Canada, est-ce que ça change votre réponse?
Ça te ferait d'être 800, ça resterait 800.
Non.
Non,
non,
vous dites 800.
Je dis 800.
C'est, vous dites tous les deux 800.
Si c'est 10 000, c'est 800.
Parce que si le Sahara occupe 80%
ça,
de la superficie
de
barrage, totale de ce pays, ils n'ont
je
pas
pense
trop
aller
de barrage.
Pour 800.
Eh bien, vous avez encore 8 secondes pour changer votre réponse.
Non, je ne change pas. J'essaie mordicus.
Persiste et signe.
On est ici pour apprendre.
Très bien. On regarde ça ensemble.
C'est ça,
vous avez tous les deux tort.
Attends, combien de barrages en Algérie?
Alors, il y a quand même beaucoup de barrages en Algérie. Il y en a 50. Au Canada, il y en a 10 000. Alors, c'est...
Mais c'est pas 100 à ce moment-là.
Non, c'est deux. C'est beaucoup plus.
Mais c'est beaucoup plus que 200.
En tout cas, on a appris une chose. Il y a 200 barrages en Algérie. Ouais. Et oui,
non,
10 000
non, non.
En...
Si au Cameroun, il y a... Excusez-moi, je viens du Cameroun.
Non, vous avez...
Si au Canada, on a combien? 10 000,
10 000.
Barrages.
Ouais. Ouais.
Et en Algérie, 50.
Ouais, 50. Alors... Le pourcentage, il est on est autour de 800, là.
On est autour de 800.
C'est ça.
Faut que j'en fasse mon calcul.
Alors, monsieur, on a perdu aucune...
On refait l'examen. Monsieur, on refait l'examen.
J'ai prouvé que j'étais pas bon en mathématiques.
Ben oui, ben oui.
Le pire, c'est que j'ai pris une calculatrice pour faire ce calcul. J'ai dit,
t'as dû multiplier, diviser deux fois.
Oh, oui, je sais pas ce que j'ai fait.
Je pense que t'as appuyé deux fois sur la touche.
Votre calculatrice était touchée par le bug de l'an 2020.
Non, je pense que tu as appuyé deux fois sur le. Ouais. Sur le
donc, vous conservez toutes vos boules.
Merci. Mais bon, félicitations, Alice.
Ça va bien. Alors, on est prêt pour le jeu, le dernier jeu de la semaine. Il n'y a rien à perdre ou à gagner.
C'est la photo.
L'image. L'image.
Oui, ouais. Vous devez deviner.
Je sais pas, il y a le coronavirus. Il y a les trains des Premières Nations qui a. C'est l'histoire.
Moi, je réponds seulement par oui ou par non.
Ok, est-ce que c'est au Canada?
Attendez voir, est-ce que c'est au Canada?
Oh, donc c'est pas au Canada.
Je pense que oui.
Ok,
oui.
Est-ce que c'est lié au train?
Non, c'est pas lié au train.
Ok, pas de train.
Non.
Ok, est-ce que c'est lié au coronavirus?
Est-ce que c'est lié? Oui, c'est lié au coronavirus.
Parfait.
Oui.
Il
avance, hein.
Ouais. Un cas présumé.
Il avance comme un train.
Un cas non.
Un cas présumé à Montréal.
Un cas.
Mais la
non,
photo, mais l'image. Qu'est-ce qu'on a comme image? Est-ce que c'est l'avion à Trenton? Mais ça fait longtemps.
Pardon,
mais,
c'est quoi?
Non,
l'avion qui est arrivé à Trenton.
Non,
ça, c'est...
on en a parlé l'autre jour.
Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu. Ah oui, les Canadiens qui sortent du bateau.
Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas le cas présumé à Montréal, non?
Non, c'est pas ça.
On n'a pas de photo. On n'a pas d'image.
On n'a pas de photo de la patiente.
Attends, est-ce que l'image du coronavirus lui-même? Non, on n'a pas eu.
Le coronavirus est fait partie de l'histoire. C'est au centre de l'histoire. Mais
est-ce que c'est un laboratoire où on a découvert le.
Non, mais c'est très technique. C'est relié à quelque chose de très technique. Ouais, ouais,
à
ouais,
quelque
ouais.
chose de très, très technique. Ouais,
avec beaucoup de mathématiques dedans, de chiffres. Il ne faut pas se tromper, là. C'est très dangereux de se tromper. Beaucoup de chiffres, beaucoup de numéros.
C'est un ordinateur qui calcule quelque chose qui.
Oui, il y a des ordinateurs qui calculent là-dedans.
13K au Canada.
Non.
C'est vraiment, c'est lié à.
On n'a pas de décompte de 50.
Non, mais.
Je sais pas. Non, vraiment, j'espère que je n'ai pas vu cette image.
Je vais vous donner un indice. Okay. TSX, Dow Jones.
Ah oui, il est tombé, le Dow Jones.
Les marchés ont atteint leur niveau le plus bas historique.
Et ça s'appelle
depuis
maintenant,
la crise de
2008. Et maintenant, ça s'appelle le Dow Jones. C'est plus le Dow
c'est
Jones.
C'est vrai?
Oui, enfin, je l'ai appelé le Dow Jones maintenant.
Alors, voici votre image de la semaine.
Ah, OK. Mais bon, je m'attendais au broker, enfin, au
ben oui, on le disait
trader
à RDI ce matin.
Ouais.
Tous les marchés ont plongé.
Encore.
Et ont atteint leur plus bas niveau historique.
Et j'ai aimé le qu'on appelle le Dow Jones. Le Dow Jones.
Ouais. Blague à part, moi j'ai regardé avant l'émission, 10 minutes avant, c'était 933 points de moins au Dow Jones. Est-ce que vous avez la capacité de me dire combien on est rendu à combien une heure plus tard?
Attends,
de perte ou de gain? On ne sait pas. Peut-être qu'ils ont tout regagné. 933, ça y prend plusieurs secondes avant la bonne.
Excusez-moi.
Vous faites Dow Jones, tout de suite vous allez avoir une alerte. Voilà. On a perdu. Mon Dieu! Seulement 2,62%, donc c'est pas si mal comme journée.
Okay,
comparé aux autres.
Surtout pour ceux qui investissent.
Ouais. Ouais, si vous avez de l'argent, là, vous n'êtes pas. C'est dommage d'avoir de l'argent en général, c'est une bonne chose, mais là.
Mais la spéculation, ça peut. Tout
peut voler en fumée.
Ouais. C'est trop tôt pour rire, je le sais. Pardonnez-moi.
Bon, mais...
c'est que c'est terrible. C'est que c'est là, les gens qui voulaient partir à la retraite. Tout ça,
c'est ça.
Sera...
Le problème, c'est avec
c'est
les
tout
retraites.
Ça.
Il y a beaucoup de fonds de retraite qui sont. Ouais.
Ouais. Alors, l'idée, c'est d'investir, mais de faire attention quand tout va bien, va trop bien, quand on écoute certains politiciens.
On croise les doigts.
Ouais, c'est ça. Alors, écoutez, certainement qu'on en reparlera dans le cadre de nos activités ici à Radio-Canada International.
Tout à fait.
D'examiner plus près ce que ça veut dire pour les Canadiens. D'ailleurs, si j'avais un conseil à me donner, ce serait celui-là.
D'analyser les incidences possibles.
Oui, c'est ça. Exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire.
Tout à fait.
Beaucoup de conseils à donner et beaucoup de conseils à suivre nous-mêmes dans cette histoire-là.
Tout à fait.
Alors, merci à vous deux, Alice. Et puis Samir, félicitations, vous avez tous été champions à l'émission.
Merci.
Vous avez déjoué le professeur et c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Hein? Merci beaucoup. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.